Chapitre 4. L'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en France. Cours 1. Le Second Empire et la modernisation de la France. Comment le Second Empire entend-il moderniser la France? A. La promotion de l'invention et de l'esprit scientifique. 1. La croyance dans le progrès. Entouré de conseillers comme Michel Chevalier, Napoléon III défend des principes nouveaux. Les compétences et les talents doivent remplacer les privilèges de la naissance et la hausse de la production industrielle améliorera le sort de la classe populaire pour mettre un terme aux révolutions. Pour cela, il faut faciliter le crédit et développer les réseaux de communication. 2. La valorisation de l'esprit scientifique. Le Second Empire valorise la capacité d'invention. Traités et outils théoriques de recherche se multiplient. L'administration enquête auprès des industriels ou des fermiers pour mesurer et rationaliser le développement économique. La Société de statistique de Paris est créée en 1860. 3. Les expositions universelles et les comices, lieux de célébration de l'innovation. L'Empire met en scène les réussites industrielles par les expositions universelles de 1855 et 1867. Les visiteurs y découvrent les premières batteuses à grains ou les grands ouvrages d'art. Dans les campagnes, l'organisation annuelle des comices agricoles, initiée par la monarchie de Juillet et devenue obligatoire après 1851, récompense les pratiques innovantes comme l'usage de l'engrais. Ces changements sont rendus possibles par le développement des réseaux de transport et de communication. B. Un territoire décloisonné et connecté. 1. L'essor remarquable du réseau ferré. Par la loi de 1842, l'État prend à sa charge les infrastructures, terrains, ponts, tunnels, voies, tandis que le matériel, la construction des gares et l'organisation du service de transport sont concédés sur une longue durée à des compagnies privées. Les différents réseaux convergent vers Paris. Le Second Empire consolide ce dispositif pour unifier le marché national. La fusion des lignes concédées aboutit à la création de 6 grandes compagnies associant industriels et financiers. En allongeant leurs concessions à 99 ans et en garantissant leurs obligations à hauteur de 3%, l'État les incite à supporter la construction du réseau secondaire moins rentable. Le développement du chemin de fer est spectaculaire. Entre 1851 et 1870, le réseau passe de 3000 km à 17000 km et le cumul de voyageurs de 20 à 113 millions. 2. Le développement des autres réseaux de communication. Dès 1836, la loi sur les chemins vicinaux ou communaux jette les bases d'un réseau routier qui pénètre au cœur des campagnes et contribue de manière décisive à leur désenclavement. Foires et marchés accueillent les colporteurs, marchands ambulants qui assurent la circulation des informations et l'accès à la consommation. Progressivement, le train dessert les principaux ports du territoire où s'ouvrent des liaisons avec le reste du monde, Marseille-Alger en 1854, Le Havre-New York en 1864. Le réseau télégraphique passe de 2000 à 40 000 km. Le contrôle du territoire s'en trouve renforcé. C. Le financement des transformations urbaines. 1. L'essor des banques. Avec la loi de 1863 sur les sociétés anonymes, de nouvelles banques, comme le Crédit Lyonnais et la Société Générale, en 1864, cumulent actions, obligations et dépôts de particuliers dans leur capital. Développant un réseau de succursales sur tout le territoire, elle contribue au financement des entreprises. D'autres établissements bancaires reçoivent l'appui direct de l'empereur, comme le Crédit Mobilier des Frères Pereire, 1852, qui s'engage dans le financement de grands travaux urbains à Paris et dans plusieurs villes thermales, Arcachon, Vichy, tout en investissant dans les chemins de fer. 2. La transformation des villes. L'état sanitaire des grandes villes, dénoncé par les hygiénistes, justifie un profond remodelage urbain. Le pouvoir cherche aussi à mieux contrôler les classes populaires, tout en réalisant des opérations de prestige. Ainsi, à Paris, Marseille ou Lyon, l'État et la ville définissent le plan d'ensemble, réalisent les réseaux et les grands équipements et exproprient. À Paris, cette politique est mise en œuvre à partir de 1853 par le préfet Haussmann. Il agrandit d'abord Paris en 1860 par l'annexion des communes limitrophes, la faisant passer de 12 à 20 arrondissements, puis engage de vastes travaux, réseau d'égouts, percement ou élargissement des voies de circulation, construction de nouvelles gares comme la gare du Nord ou la gare de Lyon. Cette modernisation et cet embellissement de la capitale profitent à de nombreux entrepreneurs qui construisent et vendent les nouveaux immeubles. Mais cette politique est aussi critiquée en raison de la trop grande proximité entre l'État et certains spéculateurs. Surtout, une partie de la population parisienne est expulsée du centre de la ville et doit se loger ailleurs dans des conditions toujours aussi dégradées.